musique juive d'hier et d'aujourd'hui. Une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Rotten sur Judaïque FM.
I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey. Now I'm wild.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous radiophonique de l'Institut européen des musiques juives. Notre objectif, vous faire découvrir chaque mois la richesse et la diversité des musiques juives d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Et notre dernière émission était consacrée à la chanson franco-orientale, que certains appellent franc-arabe, parce que l'une de ses particularités, justement, tient dans le fait qu'elle alterne le français et l'arabe dans un subtil mélange rimé. Autre spécificité de cette chanson franc-arabe, qui a existé à partir des années 1930, et dont il reste encore aujourd'hui quelques rares, mais vraiment rares représentants, c'est que parmi ses interprètes figurent de nombreux juifs, d'origine algérienne, marocaine ou tunisienne, par exemple. Et en janvier 2016, la revue Je Chante Magazine a publié un dossier absolument passionnant et très détaillé sur cette chanson franc-arabe et ses représentants, pas moins de 30 pages, rédigées en grande partie par Raoul Belaïch, le rédacteur en chef de cette publication, et qui est ici présent dans ce studio et que je salue. Bonsoir Raoul.
Bonsoir Hervé.
C'est encore un plaisir de vous retrouver pour cette soirée-là. Vous êtes déjà venu à la dernière émission et vous me faites l'honneur de revenir. Il fallait au moins deux émissions pour faire le tour de la question, tellement le sujet est énorme.
Là, je suis un peu rodé, je suis moins impressionné que la première fois.
Eh bien, c'est parfait parce qu'on va pouvoir dire plein de choses et écouter surtout beaucoup de musique. Parce que donc, dans votre magazine, on a donc pas moins d'une trentaine de pages qui sont consacrées à des grands chanteurs. Alors, on citera leur nom, bien sûr, tout au long de cette émission, mais Lynn Monti, Renette Loranès, Maurice Almedioni, Lily Boniche, enfin, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Et sans oublier une biographie complète de Enrico Macias.
Oui.
40 pages quand même. Dites-moi, Raoul, quel travail, comment vous avez fait pour rédiger cette revue, pour rassembler tout ça? Parce que moi, je vous avoue, je suis très impressionné.
Pour Enrico Macias, c'est un projet que j'avais depuis très longtemps, une envie de le rencontrer, de raconter sa vie, son œuvre. Et donc ça a pu se faire petit à petit. J'avais écrit deux livrets pour des compilations qui étaient parues chez Philips et chez Pathé. Donc j'avais la matière, mais il a fallu chercher, approfondir à travers beaucoup d'interviews. Heureusement, avec Internet, on peut avoir accès à pas mal d'interviews de radio, de télé, d'émissions de télé.
Et vous avez rencontré Enrico Macias?
Oui, à deux reprises déjà.
D'accord.
Notamment pour la sortie de son nouveau livre et de son disque qui est sorti ces derniers jours.
Alors, Enrico Macias, on a la chance, il est encore bel et bien vivant, lui souhaite jusqu'à 120 ans, mais beaucoup de chanteurs que vous citez dans cet autre dossier sur la chanson franc-arabe sont malheureusement décédés. Alors, comment avez-vous fait pour rassembler tous ces détails, ces renseignements?
Il reste au moins Maurice Almedioni qui vit en Israël, qui est relativement âgé aussi, et qui est la mémoire de toute la musique des années 30 à aujourd'hui.
Mmh.
À partir de plusieurs entretiens au téléphone, il a pu me donner pas mal
de renseignements.
Oui. Et puis, c'est de fil en aiguille. Quand on commence ce genre de travail, on n'y connaît rien et un nom appelle l'autre.
Vous avez remonté une piste, telle un Sherlock Holmes.
Oui, ça m'a passionné, d'autant plus qu'étant tunisien, a priori, je n'ai rien à voir avec cette musique qui est plutôt algérienne. Mais ça m'a passionné par ce mélange de musique orientale et de musique occidentale, ce qui est le propre de ce qu'on a appelé la chanson franc-arabe.
Et alors, combien de temps vous avez mis à peu près
Deux ans. Le projet a germé en février 2014, donc presque deux ans.
Deux ans. Bah écoutez, moi je l'ai dévoré cette revue, il m'a pas fallu deux ans, il m'a fallu une petite soirée, mais elle est tellement dense, donc je redonnerai les références de cette revue. Il s'agit de Je Chante Magazine, le numéro 16 qui est paru en janvier, et je vous conseille vivement de vous procurer ce magazine dont je donnerai les références à la fin de cette émission. Mais comme vous le savez, cette émission est avant tout musicale. Et le mois dernier, nous avons parlé et écouté beaucoup de musique, donc notamment des pionniers de cette chanson franc-arabe. Mmh. On a entendu Lili Labassi, Saoud Loranel, Louisa Tounsia, Salima Lali, et puis aussi ces grandes voix féminines de Renette Loranès, bien sûr, Lynn Monti. Mais dans cette émission, nous allons écouter peut-être de façon plus brève la vie et l'œuvre, parler de la vie et de l'œuvre de chanteurs qui sont notamment des chanteurs peut-être plus de la seconde génération, mais qui ont également fait vivre et aimer cette chanson franc-arabe des deux côtés de la Méditerranée. Et le premier interprète que nous allons entendre dès à présent est un sacré personnage. Lui-même se qualifiait d'ambianceur,
oui.
comme il s'agit de Blonblon l'Albinos.
J'ai le cœur triste et je suis là. Partout m'observe à chaque pas. J'ai quelque chose de pas commun. On me remarque, je ne suis pas brun. Dans la rue on regarde mes cheveux. On dit voyez la couleur de ses yeux. Mais si placé est un malheureux. On me montre du doigt. Veuillez écouter ma chanson. Quand je la chante, j'ai le frisson. Je n'ai plus mon père, je n'ai plus ma mère. Je ne veux plus vivre sur cette. On m'appelle l'Albino, pourtant je ne suis pas féroce. Je suis fait en chair et en os, et je suis né comme tous les gosses. Le jour la nuit on me poursuit. Je suis trop blanc, on me charrie. Ah mon Dieu, enlevez-moi. Pourquoi suis-je tombé si bas? Je vais plus souffrir, je vais mourir. Et puis entendre grâce, mesdames et messieurs, je vais vous formuler un vœu. Ne m'appelez plus l'Albino.
L'Albinos, une chanson interprétée ici par Blonblon, extrait d'ailleurs d'un CD qui s'appelle « Trésor de la chanson judéo-arabe » et qui regroupe beaucoup de chansons de ce chanteur peu commun. Il était albinos, je crois, réellement.
Et c'est peut-être la seule chanson que je connaisse qui parle des albinos.
Oui, est-ce qu'il en a souffert à ce point-là ou alors il se met un peu en boîte parce que
peut-être un peu.
Blonblon, c'était un sacré personnage. Il animait les fêtes, on disait qu'avec lui...
Il avait sur ses cartes de visite, il écrivait « Dans vos réceptions, il faut de l'ambiance, avec Blonblon, c'est une assurance. »
C'est tout à fait un personnage truculent. Ouais. Et une voix, une présence incroyable. Il a écrit notamment une autre chanson qu'on peut malheureusement pas entendre, mais que j'avais déjà diffusée, qui s'appelait Les Merguez, qui est à mourir de rire.
Il y a une version que vous connaissez peut-être, qui est une version swing des Merguez.
Ah, je ne la connais pas, il faut l'amener
on
la prochaine
fois. On peut la trouver sur Internet, je ne sais pas si elle existe en disque, où il imite très bien Maurice Chevalier.
Alors si, c'est la version
c'est
que je connais,
que
tout à fait, absolument, absolument. Et Blonblon, lui, donc, alors on est tout à fait dans la chanson orientale, qui est mélangée, on voit l'arrangement n'est pas du tout oriental, mais son ton de voix est oriental, bien sûr, enfin ses mélismes, ses mélodies sont complètement orientales. Mais là, on ne l'entend pas chanter particulièrement en arabe.
Pas forcément, non, pas dans cette chanson.
Pas dans cette chanson, mais ça lui arrive. Et c'est ça qui est toujours un peu difficile à cerner dans cette chanson franc-arabe, c'est qu'on rattache parfois des chanteurs, en fait, qui parfois chantent en arabe, parfois chantent souvent en arabe mêlé de français, parfois entièrement en français. En fait, nous qui avons toujours tendance à mettre les choses dans des cases, c'est pas si simple que ça, parce que les chanteurs... ils ont fait leur chanson et parfois elle était vraiment franc-arabe, c'est-à-dire il y avait ce mélange linguistique du français et de l'arabe et parfois pas. Parfois ouais. C'était du français, parfois de l'arabe.
C'est presque un blues un peu.
Complètement. Ouais. C'est vraiment amusant. Ouais. Écoutez, est-ce que, sur Blonblon, vous avez autre chose
on
à nous raconter ?
On peut rappeler son vrai nom, il s'appelait Albert Rouimi. Mm-hmm. Il était né en 1919 à Oran, il est mort à Marseille à la fin du siècle, en 1999. Il paraît qu'il a vécu, ceux qui l'ont connu, a vécu ces derniers temps dans la misère. Et lui-même le disait qu'à l'arrivée des disques jockeys et de la musique israélienne, le style qu'il défendait et qu'il animait dans les mariages était un peu délaissé, donc il avait moins de
succès peut-être.
Moins de travail aussi.
Oui. Travail. Mais maintenant on lui rend hommage et je pense que la postérité reconnaîtra son rôle. Il y a beaucoup d'autres chanteurs, c'est pour ça qu'on va avancer et parler d'un grand, également un grand de la chanson dite franc-arabe, il s'agit de Lili Boniche.
Oui.
Alors, Lili Boniche qui est née également à Alger, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ces chanteurs qui sont nés en Algérie. Hein. En 1922, il est décédé en 2008 à Paris, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Beaucoup de cette génération est mort au tournant du siècle.
Oui. Hein.
Et on va entendre une chanson que vous allez bien sûr tous reconnaître, puisque Lili Boniche a repris la célèbre chanson de Dalida, il s'agit de Bambino.
عينك بكى وتظهر حزين مشغول البال جافك النوم دعت حياتك والأمال وحدك ما حتار تمشي في الشارع والجوال وكل نهار تنظر الشباك كحالة الانظار وانت في حبها مقهور
بامبينو بامبينو
وقربها متاملو
بامبينو بامبينو
لكن الحب يا مغرور
بامبينو بامبينو
مصعب وانت ما تقدر له وتظهر حليه مشغول البال جافك النوم دعت حياتك بالأمان وحدك ما حصار تمشي في الشارع والجوال وكل نهار تنظر الشباك كحالة الانظار وانت في حبها مقهور
بامبينو بامبينو
وقربها متاملو
بامبينو بامبينو
لكن الحب يا مغرور
بامبينو بامبينو
صعيب وانت ما تقدر له اضحك واللعب بالماندولينو وسلي بامبينو الحنك تعجبني احنينا وتطربني وغني غني بصوت حنين وسلي بامبينو اليوم راك مهني على الماندولينة تغني انسى بشعرك مثل الذهب
بامبينو بامبينو
روحي يا صبي ما زلت صغير
بامبينو بامبينو
مع الصبيان مشيت العاب
بامبينو بامبينو
الحب اللي هو كبير لكن الحب يا مغرور يا مغرور صعيب وانت ما تقدر له
بامبينو la version de Lili Boniche, assez loin de celle de Dalida, mais on reconnaît parfaitement l'air. Et d'ailleurs, ici, c'est entièrement interprété en arabe.
Entièrement, oui.
Et ça, encore une fois, vous voyez, la chanson franc-arabe, finalement, c'est soit une adaptation de chansons françaises en arabe, soit ça peut être un mélange, comme on l'a dit,
oui.
Des deux langues et parfois une création. C'est très, très libre.
On ne peut pas le réduire à... Effectivement, je ne savais pas quand j'avais vu le film OSS 117 avec Jean Dujardin où il chante cette chanson dans la fameuse scène du café. Je ne savais pas qu'il y avait eu cette version bien avant par Lili Boniche.
Et oui, parce que Lili Boniche, il a quand même une carrière un petit peu particulière, en fait. On l'a redécouvert à la fin des années 80. L'enregistrement qu'on a entendu, c'est toujours extrait de cette collection Trésor de la chanson judéo-arabe, qui était une compilation qui a été réalisée donc, à la fin des années 80, reprise récemment d'ailleurs par Buda Music, donc c'est, qui a ressorti un peu tout le catalogue de Dounia, le label vraiment de Kalawi Al-Tounsi, dont on parlera bientôt. Mais Lili Boniche a une carrière un peu fragmentée. On n'a pas entendu parler de lui pendant très longtemps. Je crois qu'il a commencé très jeune, mais il a dû s'arrêter. Enfin,
oui, il a un rencontré une comtesse un moment, dont il est tombé amoureux. Elle a forcé plus ou moins à arrêter la musique. Donc pendant longtemps, il a arrêté la musique. Et c'est dans les années 80, vers la fin des années 80, qu'il a été redécouvert et là, c'est devenu un artiste branché. Il passait souvent au Café de la Danse.
C'est fou parce qu'il avait près de 60 ans. Il est né en 1922, donc dans les années 80. Il avait pas loin de 60 ans. Il a fait une seconde carrière.
Effectivement.
Mais sa comtesse l'avait laissé chanter ou alors il était divorcé?
Peut-être qu'il avait divorcé à ce moment-là.
Il avait divorcé.
Et il a connu vraiment une belle carrière, une belle fin de carrière. Et c'était quelqu'un de branché à ce moment-là.
Et alors, il a commencé donc très jeune, en fait, dans votre revue. J'ai noté que dès l'âge de 15 ans, donc en 1937, il jouait déjà dans l'orchestre de Radio Alger. Et puis pendant la guerre, il chantait pour le théâtre des armées, notamment pour remonter le moral des troupes et de la population. Et c'est à partir de 1947, vous voyez, je vous ai bien lu, hein, il s'installe à Paris et chante tous les soirs dans une salle bondée du cabaret du Faubourg Montmartre, qui s'appelait Au Soleil d'Algérie, qui est un cabaret très connu. Et vous citez une anecdote très intéressante sur ce cabaret, parce qu'apparemment, il y rencontre François Mitterrand.
Oui, qui était député à l'époque.
Oui.
Et tous les soirs, il venait le voir, il lui disait « Lili, ne partez pas, je vais à l'Assemblée, vers 2-3 heures du matin, je reviens, on viendra vous écouter. »
Et il revenait l'écouter à 2-3 heures du matin.
Et dans les années 80, Lili Boniche racontait que Roger Hanin l'appelait, il lui disait « Tonton veut te voir, et viens chanter. » Et
Il allait chanter à l'Élysée ?
Au domicile
de François Mitterrand.
Et paraît-il, il aimait beaucoup ce répertoire,
François Mitterrand. Oui. Voilà, encore une anecdote que nous ne connaissions pas. Mais je vous dis, c'est vraiment une découverte, tout ce répertoire et toutes ces vies aussi. Et alors, vous m'avez fait découvrir un chanteur que je ne connaissais absolument pas, Raoul Belaïch. Il s'agit de Staïfi, qui est encore vivant. Hein.
Lui est vivant, il habite du côté de Montpellier.
Il s'appelait... Staïfi, c'est un nom de scène, je crois.
Oui, il s'appelle Darmon, Albert Darmon.
Et ça vient d'où, Staïfi?
De la ville de Sétif.
Dont il était originaire. Et alors, Alors, racontez-nous un peu, c'est qui Staïfi? Qu'est-ce qu'il a fait connaître?
Apparemment, il a commencé au milieu des années 50, à Paris. Il chantait beaucoup au Faubourg Montmartre, dans ce fameux cabaret Au Soleil d'Algérie. Et ce cabaret était pas loin des disques Vogue, qui étaient rue de Hauteville, dans le 9e, 10e. Et beaucoup de gens de chez Vogue venaient, dont Sidney Bechet.
D'accord.
Et ils ont sympathisé, c'est grâce à Sidney Bechet qu'il a enregistré son premier disque chez Vogue.
Alors oui, nous avons à l'Institut européen des musiques juives plusieurs disques de Staïfi qui sont... les couvertures sont truculentes.
Oui.
Hein. Il est habillé complètement à l'oriental. Et il joue sur cette image, il me semble.
Ouais. Il avait enregistré un moment une version franco-arabe, ou entièrement en arabe, je crois, d'une chanson de Lynn Renault, une autre de Tino Rossi. Et comme dans la tradition des enregistrements en arabe, il rend hommage en ouverture.
Il rend hommage à Lynn Renault, à Tino Rossi, etc.
Et puis en 60, suite au succès de Mustapha par Bob Azam, sa maison de disques lui demande de l'enregistrer. Et là, il fait un tabac dans le Maghreb.
Alors Mustapha, c'est un autre nom, je crois que c'est aussi Chérie, je t'aime, Chérie, je t'adore. C'est plus connu sous ce nom-là. Et effectivement, qui a été enregistré par Bob Azam, mais lui, il l'enregistre et comme vous dites, il fait un tabac et il va. J'ai vu sur les disques, il y a marqué Staïfi et c'est Mustapha.
C'est Mustapha.
Alors c'est quoi cette histoire?
Je crois que sa version, il m'a dit que sa version avait beaucoup de succès au Maghreb parce que il avait l'accent du Maghreb, la façon de parler, alors que celle de Bob Azam était plus moyen-orientale. Et ce qui est une anecdote à propos de Mustapha, la chanson avait beaucoup de succès. Et les partisans de l'Algérie française ont cru à un moment que c'était l'hymne du FLN.
D'accord.
Ouais. Et ils l'ont menacé, et à un moment, ça l'a un peu dégoûté de la chanson, il a arrêté pendant quelques années.
D'accord. Et donc, il a arrêté. Et est-ce qu'il chante encore aujourd'hui? Est-ce qu'on peut l'entendre?
Non, ce qu'il y a eu de particulier il y a quelques années, beaucoup de compilations en Angleterre notamment, qui publiaient des succès des années 60, ont mis sa chanson. Il y a 40 ou 50 compilations en Angleterre avec Mustapha par Stifey.
Alors, on ne pourra pas l'entendre ce soir parce que tout le monde connaît Chérie, je t'aime, Chérie, je t'adore, etc. Il a enregistré aussi d'ailleurs L'Oriental. C'est une autre chanson très très connue qui a été interprétée également par Enrico Macias. Mais vous avez préféré, et je vous suis tout à fait sur ce choix, de faire entendre un tango franco-arabe qui est absolument magnifique, qui évoque le Faubourg Montmartre, un quartier cher aux Tunisiens, un très beau tango que nous allons entendre donc interprété par Albert Darmon, dit Stifey.
Mais un beau jour j'ai rencontré un ami qui m'a amené dans un faubourg ensoleillé. Oui, c'est toi que je préfère, faubourg Montmartre, faubourg Messienne. Tu effaces mes misères, faubourg Montmartre en est farhan. Je retrouve sous tes lumières l'ambiance de mon beau pays, faubourg Montmartre. Makenrani, y a de la kémia dans les cafés et les filles sont jolies. Maintenant pour me distraire, au faubourg Djiba del Khedm, n'elqa mes joies familières. Je suis heureux, m'chette le romain. Ma sahabi, la vie est belle. On s'amuse, on se querelle. Souvent on finit la soirée en écoutant ma siat chanter dans un petit coin du quartier.
Un extrait de ce Faubourg Montmartre.
Ça fait rêver. Hein.
Ah oui, complètement.
Surtout le quartier a pas mal changé par rapport à cette époque.
Tout à fait. Et donc, enregistré en 1960, donc chez Vogue, les disques Vogue. Raoul Beleich, derrière ces chansons connues comme, certainement connues, mais connues comme par exemple L'Oriental dont on a parlé, ou Yaoumi, la chanson de Lynn Monti et bien d'autres encore, il y a derrière ces chansons la patte d'un auteur-compositeur qui est incontournable. Il s'agit de Youssef Hajjaj, également connu sous le nom de José de Souza.
D'ailleurs, c'est lui qui a, je crois, écrit cette chanson de Stifey. Oui.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce grand monsieur? Il est né en Tunisie comme oui, vous en 1919,
exactement.
Pas comme vous quand même, et il est mort à Paris en 2012,
je crois vers 2012.
À peu près. Il a eu une longue vie, on le voit d'ailleurs dans un film qui s'appelle Les années musicales.
Oui, effectivement.
C'est un personnage très attachant.
Alors, oui, truculent, on le voit dans son petit appartement entouré des électrophones, des magnétophones, des partitions.
Il a écrit des centaines de chansons.
Oui, paraît-il, 400 chansons. Sur le site de la SACEM, il est crédité de beaucoup de chansons, pas forcément franc-arabe. Ça a été un touche-à-tout. Il était multi-instrumentiste. Il connaissait le solfège, donc il mettait en partition les mélodies des artistes du Maghreb quand il venait à Paris pour enregistrer. Il est un peu incontournable dans ce milieu.
Et il a lui-même chanté ou pas, sous le nom de
Il a fait quelques disques, oui.
D'accord.
En espagnol, il a chanté, en français.
Et bon, alors, ces chansons, parmi ces chansons très connues, je vous l'ai dit, il y a cette chanson qui s'appelle L'Oriental, bien sûr, donc interprétée par Lynn Monti en 1952, Staifi lui-même en 1960, Enrico Macias, bien sûr, en 1962. Et comme vous l'avez entendu dans la chanson de Staifi, il dit on va dans un petit café écouter Macias.
Oui, c'est en 64 ce morceau, donc.
Tout à fait. Mais Macias, donc, qui est, et on le voit dans le dossier, qui est vraiment ressenti comme une sorte d'ambassadeur de cette chanson Pieds Noirs, en fait. Mais est-ce qu'on peut dire, Raoul Balèche, que Enrico Macias est lui aussi un représentant de cette chanson franc-arabe?
On pourrait, oui.
C'est-à-dire, Macias, il est cité par tous ces chanteurs-là comme étant une référence.
C'est vrai, c'est le seul qui a eu cette dimension.
Et oui, vous avez raison, il a pris une dimension encore autre, Macias. Mais est-ce que Macias chante beaucoup en arabe, en fait, ou
quasiment pas, non, lui. Chez lui, il n'y a pas de franc arabe. Il y a eu des chansons en français sur des musiques, des arrangements orientaux, plus précisément. Il lui arrive dans ses concerts de faire un medley arabe, Mais c'est vrai qu'il ne chante. On ne peut pas dire que ce soit un chanteur franc-arabe.
Mais en même temps, il évoque tellement dans toutes ses chansons, surtout dans sa première période, et ça vous le dit très bien dans cette revue Je chante magazine, les 10 premières années où il a enregistré chez Pathé.
C'est très très beau.
C'est magnifique. Et c'est toujours. Il évoque le pays perdu. Et c'est ainsi qu'il est en quelque sorte le porte-parole de toute une génération d'exilés. Et on va l'entendre tout de suite dans une chanson quand même. On ne pouvait pas faire une émission sans entendre Macias, mais même si j'ai bien envie de lui consacrer une émission, on va l'entendre dans cette chanson qui s'appelle justement « Adieu mon pays », extrait donc d'un disque qui s'appelle « Disque d'or des 5 années de chansons » publié chez Pathé Marconi.
J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, t'es ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent. Bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux, ses yeux mouillés de pluie, de la pluie, de l'adieu. Je revois son sourire si près de mon visage. Il faisait resplendir les soirs de mon village. Mais du bord du bateau qui m'éloignait du quai, une chaîne dans l'eau a claqué comme un fouet. J'ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fuyaient. La mer les a noyés dans le flot du regret.
Adieu mon pays, une chanson très nostalgique d'Enrico Macias. Son pays, évidemment, c'est l'Algérie. Sa ville, c'est Constantine. C'est toute son enfance. Enrico Macias, on pourra en parler pendant des heures.
Ouais, effectivement.
Juste peut-être, si vous avez une anecdote ou un mot à dire sur Enrico Macias.
Sur cette chanson, peut-être qu'il a écrite sur le bateau en 61, quand il est... Il dit qu'il est, il était pris par la nostalgie, il a pris sa guitare, il a commencé à jouer un peu
cette
de musique.
Cette chanson-là.
Oui, oui.
D'accord.
Et il disait « j'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison », tout le monde était autour de lui, il l'écoutait. Et quand il a voulu la rechanter, on lui a dit « refais-la », il ne se souvenait plus des paroles. Alors il dit, quelqu'un disait « tu as dit j'ai quitté mon pays », alors il disait « j'ai quitté mon pays », un autre disait « j'ai quitté ma maison ». C'était une sorte de puzzle comme ça.
D'accord. Oui, c'était vraiment une improvisation qui sortait du cœur.
Et il a fallu qu'il l'écrive pour ne pas l'oublier. Cet enregistrement est fabuleux, il y a une émotion, une simplicité.
Oui, oui, tout à fait magnifique. Et là, on est vraiment, comme on le dit, dans cette seconde génération de chanteurs de franc-arabe qui ont passé plus de temps, j'allais dire, de ce côté-ci de la Méditerranée que de l'autre côté, mais tout en conservant dans leur cœur le soleil, la mer, enfin tout cet Orient dont qu'ils expriment dans leurs chansons. Et ces chansons qui plaisaient aussi bien aux Juifs qu'à tous les pieds noirs, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y avait toujours ce succès de Enrico Macias, mais aussi ce succès pour tous les beaucoup d'autres chanteurs. Et un autre chanteur dont nous allons parler à présent s'appelle Luc Cherki.
Oui, il est un peu moins connu, mais...
Oui, complètement. Alors, c'est qui Luc Cherki, en quelques mots?
Je ne connais pas très très bien. Je l'ai découvert dans le film El Gusto de Safina Bouzmez. Et on le voit, je crois que c'est l'un des derniers chanteurs judéo-arabes encore en vie aujourd'hui.
Oui, il est né en 1933 à Alger. Et c'est un chanteur et un compositeur de musique judéo-arabo-andalouse. Il a appris le violon, la guitare. Et puis, il a donc aussi étudié le shaabi. On va en reparler de ce genre de musique populaire algérienne. Et il a bénéficié de l'influence de Lili Labassi et de Lili Boniche, donc quand même des mentors dans cette chanson franc-arabe.
Oui, il est aussi connu pour ce... Il avait fait un disque sur le thème du mariage qui avait eu un gros succès chez Barclay.
Oui, vous avez marqué dans votre revue qu'il est vendu à plus de 50 000 exemplaires, c'est pas rien. Il a chanté jusqu'à la fin des années 80, où je crois qu'il a fait ses adieux sur la scène de l'Olympia. Un bref retour à la scène en 1990 à la demande de l'Institut du Monde Arabe, mais comme vous l'avez dit, on le retrouve donc dans ce documentaire El Gusto, et puis aussi dans les concerts qui ont été organisés suite à la sortie de ce documentaire. El Gusto, c'était un pari un peu fou. C'était quoi?
C'était essayer de reconstituer un orchestre à la fois de juifs et de musulmans, comme il en a existé, et de les faire se retrouver. Il y a une scène très belle dans le film quand ceux d'Algérie et ceux qui viennent de France se rejoignent à Marseille.
Oui, ils avaient l'habitude de jouer ensemble avant que donc, les Juifs soient obligés de s'exiler après la décolonisation. Et ils jouaient un genre donc, populaire qui s'appelait le shaabi, comme on a dit, qui est un genre né au début du XXe siècle, un genre arabo-andalou, mais en plus léger.
Plus populaire.
Plus populaire, absolument. Et là, ils se sont retrouvés, notamment au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, où ils ont donné un concert il y a quelques années de shaabi autour de ce documentaire El Gusto. On va entendre donc cette chanson de Luc Cherki, une chanson qui a tout un programme à elle-même, puisqu'il s'agit de cette chanson qui dit « Je suis pied noir ».
C'est la version à l'Olympia.
On va l'entendre, exactement. C'est à l'Olympia dans les disques d'Ounia.
Eh bien, comme beaucoup d'entre vous, je suis pied noir. J'ai passé le meilleur de ma vie en voyage. Algérie, Tunisie, Maroc et Sahara. Toujours quand j'arrivais, quelquefois sans bagage, partout les gens m'ouvraient et leur portaient leurs bras. Rue de la Révolution, place d'Armes, je me rappelle. Oh, quelle animation quand on s'y promenait. et le soir nous allions danser à Canastelle. Je me sentais chez moi avec les Oranais. J'avais la tocade, j'allais à la goulette. Ah, beaucoup de Tunisiens ce soir, ça me fait plaisir. De Constantinople, les amis m'attendaient. On buvait de la boucha, on mangeait des brochettes. On ne voyait Tunis qu'une semaine après. Oujda, Casablanca, Rabat, Fès et Meknès. Vos soirées au décor de mille et une nuits. Et les femmes en caftan, belles comme des princesses, qui ne revenaient pas du Maroc. Et
extrait de cette chanson « Je suis pied noir » chantée par Luc Cherki lors de son fameux concert à l'Olympia donc, dans les années 1980.
Il y avait l'ambiance. Hein.
Ah, il y avait beaucoup d'ambiance, oui, oui, non, il savait parler à tous dans la salle. Alors, il y avait d'autres encore, je vous l'ai dit, ça va être un peu frustrant parce qu'il faudrait citer tellement de noms encore. Par exemple, René Pérez aussi, qui a chanté, qui a participé à l'aventure musicale de El Gusto, Maurice Almedioni, on va en parler quand même, on ne peut pas ne pas le citer. Mais René Pérez, qui est décédé en 2011, était également un ambassadeur de cette chanson franc-arabe. Il était né en 1940 en Algérie. Bon, il a interprété de nombreuses chansons dans un style andalou. Alors, comme je parle très mal l'arabe, mais pour un Ashkenaz, c'est un peu normal. je ne pourrais pas vous donner tous les noms, mais il y avait Wash El Habayeb, Rimoun Rametni, Helium Ritenzi, etc. Et René Pérez, donc, on a fait aussi des disques qu'on peut retrouver, notamment chez Buda Music, mais aussi il a enregistré dans différents labels. Dans cette émission, il faut absolument citer encore au moins deux noms. Je vous dis, il y a beaucoup de personnes qu'on doit taire et c'est un peu triste, mais deux grands messieurs de la chanson franc-arabe. Il s'agit justement, puisqu'on parle du label Dounia, de El Kalaoui Tounsi et puis bien sûr de Maurice Almedioni. Mais on va parler déjà de El Kalaoui Tounsi parce qu'il a une place un peu à part. Il est à la fois, je crois, chanteur, interprète, mais aussi un auteur-compositeur à succès et puis un producteur génial.
Ouais, il jouait de la darbouka surtout, il était connu pour ça. Et il est surtout connu pour son label, pour le label qu'il a racheté, qui n'était pas lui. Il a racheté au début des années 60 et il a bien mis en valeur.
Ah oui,
il a enregistré presque tous les artistes qui passaient à Paris.
Et pas que des artistes juifs. Non, il avait fait venir, vous mettez Farid Atrache, qui était son grand ami.
Les gens du Moyen-Orient aussi venaient enregistrer chez lui.
Et il avait pour Farid Atrache notamment acheté une salle de spectacle qui est aujourd'hui malheureusement célèbre, puisqu'il s'agissait du Bataclan.
Effectivement, en 76, il avait acheté cette salle.
Il avait acheté une autre salle aussi, je crois. Mais en tout cas, il faisait tourner donc, les artistes. Il les faisait se produire à la fois dans ses salles et il les enregistrait dans son label, le fameux label Dounia. dont on publie le catalogue, notamment Michel Lévy republie le catalogue régulièrement. Et je vous propose peut-être d'écouter un extrait donc, d'une chanson de El Kalaoui Tounsi qui est entièrement en arabe, qui s'appelle Ayahni Zinel. On va l'entendre de suite.
بنيا وحيرني زينك حيرني زينك يا بنيا وكلمتك ما رديت علي كلمتك ما رديت علي وحيرني حيرني 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 زينك يا بنيا وحيرني زينك حيرني حيرني غيرني هي حيرني زينك يا بنية وحيرني زينك كلمتك ما جاوبتيني قولي ليش يا نور عيني وقولي ليش يا نور عيني كلمتك ما جاوبتيني قولي ليش يا نور عيني وقولي ليش يا نور عيني كلمة منك ترويني كلمة منك ترويني تفرح قلبي يا صبية تفرح قلبي يا صبية وحيرني حيرني 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 زينك يا بنية وحيرني زينك حيرني غيرني حيرني زينك يا بنية وحيرني زينك.
Un extrait de Ayahni Zinel de El Kalaoui Tounsi, toujours extrait donc du CD Trésor de la chanson judéo-arabe El Kalaoui Tounsi, publié chez Mélodie Distribution. Vous avez peut-être une anecdote ou deux à nous raconter sur El Kalaoui Tounsi ?
Une anecdote, il y en a plusieurs dans cet article.
Alors, une ou deux, pas plus.
Oui, qu'il a participé à beaucoup de musiques de films. Dès qu'il y avait un moment, une note orientale à porter, on faisait appel à lui.
Quel film, par exemple ?
Il y en a plusieurs. L'homme et l'enfant, Méfiez-vous, fillette. En cas de malheur, avec Jean Gabin. La poudre d'escampette, La folie des grandeurs.
Attends, La folie des grandeurs.
Ouais, Ali Baba et les 40 voleurs. Angélique.
D'accord. Oui, effectivement, il a touché à beaucoup de choses. Et si vous avez une autre anecdote, on est preneur. Sinon, nous allons passer au dernier artiste dont on doit absolument parler, puisqu'il s'agit de Maurice El-Medioni. Maurice El-Medioni, parce que derrière tous ces chanteurs, on entend souvent un piano assez incroyable.
Effectivement.
C'est du piano, mais ce n'est pas du piano. C'est un toucher, on ne sait pas ce que c'est, et c'est Maurice El-Medioni, il n'en a qu'un. Maurice El-Medioni, comme vous l'avez dit au début de l'émission, il est âgé, mais il vit aujourd'hui en Israël, je crois, à Netanya.
Oui.
Et son toucher au piano et sa technique qui allie le boogie-woogie à la musique orientale,
c'est quelque chose qu'il a inventé, effectivement. Il appelle ça le piano oriental, en un mot, en un seul mot.
Et je crois en plus, parce que j'avais parlé avec lui, on se connaît un peu, il m'avait dit, enfin, il n'a jamais vraiment appris le piano. C'est ça qui est fou, c'est presque inné, quoi.
Il a eu un piano que son frère avait acheté dans une brocante, un vieux truc. Et c'est sur ce piano qu'il s'entraînait, très vite, il a saisi le...
Oui. Et puis très vite, il s'est fait repérer par des chanteurs qui lui ont demandé de venir l'accompagner.
Et puis avec les soldats américains et cubains qui étaient en Afrique du Nord pendant la guerre, il a beaucoup écouté, il s'est beaucoup exercé avec eux. Il a connu la musique américaine, la musique cubaine, le jazz, tout ça.
Et c'est ce qu'on retrouve encore aujourd'hui. Alors, vous parlez de soldats américains et puis de Cubains. Il se trouve que Maurice Melmédioni a enregistré énormément, et notamment une de ses grandes compositions, c'est Oran, Oran.
Oui.
Et on va entendre, pour finir, je vous ai fait un petit montage entre une version, disons, classique de Oran, Oran, puis une version qu'il a faite plus récemment, une version cubaine, en fait, qui est extraite donc, d'un double CD qui s'appelle du même titre, Oran, 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 publié chez Budin Musique en 2013. Et puis, donc le CD donc plus récent qui s'appelle Maurice Melmédioni meets Roberto Rodriguez Descargas Oriental The New York Session, où là justement il mélange la musique orientale avec la musique cubaine. Donc on entend tout de suite ce montage.
Qui ne se souvient de Canastel, de l'Alpesi et de sa clientèle, Blanc Blanc et Boniche, Lynn Monti à la friche, المغربي غناتي يا حبابي
Oran Oran, un montage maison entre sa version historique et puis sa version cubaine. Moi, ce qui me fascine,
c'est un rêve de gosse pour lui d'être accompagné, de jouer avec un vrai percussionniste cubain.
Ah, mais en plus, ça fonctionne magnifiquement bien. Et ce qui est incroyable avec cette musique cubaine, c'est qu'on peut l'entendre avec cette musique orientale ou on peut l'entendre avec de la musique klezmer, et ça fonctionne avec toutes les musiques. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment magnifique. Et puis, ça montre à quel point, en fin de compte, il reste moderne malgré son âge et sa créativité. Elle est pas entamée du tout, Maurice Melmédioni. Donc on le salue bien fort de Paris s'il nous entend à Natania. Et malheureusement, chères auditrices, chers auditeurs et cher Raoul Belaïch, on va être obligé de terminer notre émission parce que c'est l'heure. Je voulais vous remercier encore une fois.
C'est moi qui vous remercie, Hervé.
Vraiment pour votre présence et tout ce que vous avez apporté à travers ce magazine, donc Je Chante, dont je vais redonner les références pour tous nos auditrices et auditeurs. Il s'agit donc de la revue Je Chante Magazine numéro 12, donc de janvier 2016, que vous pouvez vous procurer à l'adresse suivante. Donc Je Chante Magazine, 7 rue du Panorama, 77 500 Chelles, CHE2LES. Vous pouvez également le commander par téléphone au 01 64 21 63 52 et bien sûr en ligne sur Internet. Le site Internet, c'est facile, c'est www.jechantemagazine.com. Retrouvez également le podcast de cette émission sur le site de l'Institut européen des musiques juives, www.iemj.org. A noter que sur ce site figurent les podcasts de toutes les émissions enregistrées depuis le début, donc c'est la 48e aujourd'hui. Et bien sûr, sur le site de judaïquefm.com dans la rubrique podcast. Au micro, Hervé Roten, Avner à la technique. L'Institut européen des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée en musique, bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui. Une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïque FM.
Sugar. I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey, now I'm wild over honey child. Honey child's got me feeling funny, I'm good schlagging muddy in the noggin, oh. I'm the sugar for my sugar, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me.